Chapitre 45. 2 octobre 1998, 17h57. Malvina de Carville dévisagea Marc de son inimitable sourire de petite fille perverse de bonne famille. Une tueuse en série imaginée par la comtesse de Ségur. Elle s'assit dans le premier siège du wagon, à l'opposé de l'emplacement occupé par Marc, face à lui. Le monotone paysage du pays de Caux défilait par les fenêtres. Marc n'esquissa aucun geste. Malvina devait bien entendu avoir son Moser à portée de main. Le plus raisonnable était d'attendre. Dans l'instant, Marc souhaitait avant tout terminer ce cahier de grand-duc. Il ne lui restait plus que 5 pages à lire. Il retint un frisson. L'image troublante de Lily sur la plage de Morval lui revint, suivie de la liste des hôpitaux. Il ne devait pas se disperser. Il devait lire ses dernières pages tout en gardant un œil sur Malvina et saisir la première occasion qui se présenterait pour désarmer cette folle. Journal de Crédule Grand-Duc.
Je vous vois venir. Vous avez compté les pages restantes. Vous commencez à paniquer. Vous réclamez la solution. Je vous avais prévenu pourtant. Il ne fallait pas vous attendre à une happy end, à un coup de théâtre final, au doigt d'Hercule Poirot désignant le véritable coupable à la toute dernière ligne. Je sais, ce n'est plus ma psychologie de bazar qui vous intéresse. Vous en avez soupé. Terminez les méthodes de papa grand-duc, les interminables états d'âme et les indices insaisissables. Vous avez écouté poliment mon récit, mais maintenant une seule chose vous intéresse au fond. Le test ADN. La science avec un grand S, le miracle de la génétique. Rassurez-vous, je vais y venir à ce fameux test ADN. Pas de panique. Ce fut le cadeau d'anniversaire de Lily. 3 gouttes de sang pour ses 15 ans. Pardonnez-moi, mais avant ça, il reste à régler quelques derniers petits détails. Nazim et moi, nous continuions de traquer avec obstination le fameux Georges Pelletier, SDF camé, se promenant peut-être avec dans la poche une gourmette à 75 000 francs. C'est Nazim qui a fini par retrouver Georges, presque par hasard. Depuis plusieurs mois, on essayait de dresser l'inventaire de tous les clochards et autres paumés de la rue retrouvés morts, accidentellement ou non. Ce jour-là, c'était un matin de brouillard de juillet 1993, Nazim a présenté sa photo à un îlotier du Havre, dans le quartier des Neiges, une banlieue bizarre coincée entre les entrepôts du port. Le type s'en souvenait vaguement. On a ensuite exhumé des archives. Il y avait un dossier au commissariat. Le 23 janvier 1991, un inconnu avait été retrouvé noyé dans le bassin au pétrole. Les températures descendaient au-dessous de zéro depuis une semaine. Le type n'avait pas dû survivre plus de 5 minutes dans l'eau glacée, même s'il avait plus de 2 grammes d'alcool dans le sang. On n'avait retrouvé aucune pièce d'identité sur lui, mais les flics avaient pris un cliché du cadavre. Aucun doute, c'était bien Georges Pelletier, étendu sur sa couverture trouée. Rien dans les mains, rien dans les poches, ni testament, ni laisse de chien, ni gourmette. Le mur du fond de l'impasse. J'ai prévenu moi-même le frère, Augustin, qui sembla presque soulagé. Sa quête personnelle prenait fin. Il pouvait tourner la page. Pas moi. Ce salopard de Georges Pelletier s'était envolé dans l'hiver avec son secret. Qu'est-ce qu'il avait foutu ce soir-là, sur le Mont Terrible? Qu'avait-il vu? Malvina fermait les yeux. Les ondulations du pays de Caux semblaient la bercer. Pas habituée au long voyage, la gamine, pensa Marc. Il alternait la lecture du cahier de grand-duc et la surveillance de Malvina de Carville au bout du compartiment. Depuis de longues minutes, Malvina luttait contre le sommeil. Elle s'assoupissait un bref instant, puis se réveillait brusquement, le regard aux aguets, cherchant Marc. Cette fois-ci, les yeux de Malvina étaient clos depuis plus de 30 secondes.
Marc se décida. Il se leva sans bruit, avança à pas de loup. Moins de 20 mètres le séparaient de la fille. Il ne fallait pas que Malvina ouvre les yeux, pas tout de suite. Marc avait déjà parcouru 10 bons mètres. La tête de Malvina était toujours inclinée, immobile sur le côté du siège bleu et jaune, affichant le sourire presque angélique d'une fillette épuisée de s'être trop amusée. Marc continua d'avancer. Il se revoyait gamin au centre aéré de Dieppe, jouant au roi du silence. Il devait, sans se faire toucher par les griffes d'un dragon aveugle, un gosse quelconque aux yeux bandés, délivrer sa princesse attachée sur une chaise, Lily, bien entendu. Plus que 5 mètres. Le train vira légèrement sur la droite. La tête de Malvina bascula de quelques centimètres, s'immobilisa à nouveau. Marc se statufia, cessant même de respirer. Malvina ouvrit les yeux, droit sur lui, 2 billes sombres tirées d'une fronde. La fille n'eut pas le temps d'esquisser le moindre geste. Dans la seconde qui suivit, les 80 kilos de Marc s'abattirent sur elle. Il avait plongé sans réfléchir, se fiant à son instinct de 3/4. Sa main droite bâillonna la bouche de Malvina pendant que de sa seule main gauche, il lui coinçait les 2 bras. Malvina dut se contenter de rouler des yeux ronds et d'agiter frénétiquement les pieds. Dans le wagon, les 2 autres passagers, l'ado aux écouteurs et le type endormi, n'avaient pas bronché. Marc poussa Malvina vers la fenêtre, tout en la maintenant fermement. Un vieux sac à main de grand-mère en faux crocodile vert était posé à côté d'elle. Marc avait en tête un plan simple, récupérer le flingue. Après, on pourrait discuter. Il maintint sa main droite en bâillon, pesa plus encore de son corps sur Malvina pour lui interdire tout mouvement et fouilla le sac de sa main gauche. Quelques secondes suffirent. Il extirpa du sac le Moser L-110. Les yeux de Malvina le fusillèrent. Marc pointa le revolver, puis ôta lentement sa main de la bouche de la jeune femme. « Tu avais envie de visiter Dieppe ?» Malvina grimaça.
« Ouais, je suis une dingue de cerf-volant. Il paraît que Dieppe, ce week-end, c'est la Mecque. »
« Ta réponse à tout, hein ?»«
Ça dépend de questions. Qu'est-ce que tu fais si je hurle ?»«
Je te bute. » »«
Oh, tu ferais pas ça. Tu toucherais pas à ta belle-sœur chérie. » »«
Va savoir. Je suis un vitral, un méchant. » Malvina soupira. Elle n'avait visiblement aucune envie d'attirer l'attention sur eux. « Tu es au courant que c'est le dernier train du soir, Malvina ? Tu comptes dormir à Dieppe ?»«
Va savoir. Je suis une Carville, tu sais. J'ai de la thune. »«
Tu n'oues pas, je te préviens. » « Si ma grand-mère Nicole te croise, tu finiras découpé en morceaux, puis bouffé par les mouettes. »«
Ça s'arrête quand, ton humour à 2 balles ?»
Marc se redressa de quelques centimètres. L'assurance de cette fille l'agaçait. Il devait arracher cette morgue sur ses lèvres. Il devait la faire craquer pour qu'elle parle. Comme une gamine caractérielle à laquelle on tient tête, que l'on agresse avec ses propres armes et qui finit par s'effondrer. La main libre de Marc se posa sur la cuisse de Malvina. La fille eut un mouvement de recul, son crâne heurta la vitre. « Tu voulais qu'on t'héberge, hein ? Tu comptais dormir dans ma chambre, c'est ça ?» La main remontée. Vengeance mesquine, Marc s'en foutait. « Désolé ma belle, mais ce soir je suis indisposé des couilles, si tu vois ce que je veux dire. »«
Si t'arrêtes pas, je vais hurler !»
La main de Marc se posa sur le pull mauve de Malvina, juste sous ses seins. « Tu sais que tu serais pas trop moche si tu te fringuais correctement ?»«
Vire tes pattes !»
Le timbre de la voix de Malvina semblait se fissurer, comme un mur de béton qui se lézarde. Marc insista. « Plus sexy, je veux dire. Tu serais presque bien roulé. De jolis petits seins. » La main de Marc se posa sur l'une des 2 petites bosses qui enflaient la partie supérieure du pull. Il sentit le cœur de Malvina qui s'emballait. « Et puis, t'as les moyens de t'en payer des gros, non ?» Le cœur accélérait encore. Les doigts de Malvina se crispèrent sur le bras droit de Marc. 10 moignons inoffensifs, incapables de le griffer, rongés jusqu'au sang. Marc se pencha. Sa bouche souffla dans le cou de Malvina. Il sentit le corps de la fille se raidir pendant de longues secondes. Les doigts se serraient convulsivement. Son corps maigre se transformait en un tronc d'arbre mort. Puis Malvina céda, brusquement, comme si son squelette avait fondu d'un coup. Marc repoussa sa main et siffla dans son oreille. « Ne me touche plus jamais, Malvina. Tu as compris ? Plus jamais !» La porte du wagon s'ouvrit brusquement. Un contrôleur entra. Une contrôleuse, en fait. Plutôt jeune. Elle passa devant eux sans s'arrêter. Elle jeta simplement un rapide coup d'œil aux corps enlacés de Mark et Malvina. Un sourire s'afficha sur ses lèvres et elle disparut dans le wagon suivant. Mark relâcha encore son étreinte, pointa le Mauser sur sa prisonnière. « On arrête de jouer. Qu'est-ce que tu fais ici ?»«
Va te faire foutre. »
Mark sourit. « Tu me fais rire, Malvina. Tu devrais me faire flipper et j'ai envie de te faire la morale comme à une petite sœur. »
Je suis plus vieille que toi, connard.
Je sais. Bizarre, hein? Tout le monde te présente comme une folle dangereuse. Mais je n'arrive pas à y croire.
Qui ça, tout le monde? Grand-Duc?
Entre autres, ouais.
Si tu crois ce qu'il racontait...
Malvina reprenait ses esprits. Mark ne devait pas se laisser abuser par cette étrange confiance qu'elle lui inspirait. Il braqua encore le Mauser. Ah, c'est certain que maintenant il ne pourra plus dire de mal de toi. Une balle en plein cœur, radicale. C'est parce qu'il te haïssait que tu l'as descendu ? Une seconde fois, en moins d'une minute, le corps de Malvina sembla se liquéfier. Elle ouvrit des yeux façon bille, marron, presque émouvant.
Qu'est-ce que tu racontes, Vitral ? Je l'ai pas tué, Grand-Duc.
Sa voix reprit un semblant d'assurance.
J'aurais bien aimé, remarque, mais le travail était déjà fait quand je suis arrivé chez lui.
Oh, me prends pas pour un con, hein. Son cadavre m'est tombé dessus chez lui. Ta mini est égarée devant chez lui. Les pupilles de Malvina se dilataient. Ses yeux sombres s'agitaient comme deux mouches paniquées dans un bocal.
« Il était déjà mort quand je suis arrivée. Je te le jure. Je suis entrée chez Grand-Duc 2 heures avant toi. Maxi, il était déjà refroidi, comme les braises de la cheminée où sa tête était fourrée. »
Mark se mordit les lèvres. « Elle dit la vérité, » pensa-t-il. Grand-Duc était mort depuis plusieurs heures quand il l'avait trouvé. Malvina semblait sincère. Sa version était crédible. Était-il si stupide qu'il allait lui faire confiance à cette folle, en dépit de toutes les apparences ? Qui avait tué crédule Grand-Duc dans ce cas ? L'image de Lily glissa devant ses yeux. « Pourquoi je te croirais ?»«
Je m'en fous que tu me crois ou pas. » »«
Ok. Tu faisais quoi alors chez Grand-Duc ?»«
Je suis une fan de Libellule. Je voulais admirer sa collection. Toi aussi, non ?»
Mark sourit malgré lui. Il prit cependant garde de maintenir à distance le Mauser. Malvina enfonça le clou.
Vitral, c'est peut-être bien toi qui l'as buté, Grand-Duc, après tout. C'est tes empreintes que les flics vont retrouver, pas les miennes.
La garce, pas si folle. Mark, décontenancé, bafouilla un peu. Tu es au courant de ce qui s'est passé ? Grand-Duc devait se suicider, d'après son cahier. Une balle dans la tête au-dessus d'un vieux journal.
Non.
Malvina avait hésité un bref instant, à peine le temps de 3 pylônes électriques par la vitre. Elle insista.
Faut croire que ce connard savait pas viser.
Elle mentait. Sur ce point, au moins, elle mentait. Grand-Duc avait-il contacté les Carville avant d'être assassiné ? Avait-il révélé autre chose que ce qu'il avait inscrit dans son cahier ? Grand-Duc avait découvert quelque chose, cria presque Mark. Il en a forcément rendu compte à ta grand-mère. Qu'est-ce qu'il vous a raconté ?
Plutôt crevé.
C'était presque un aveu. Malvina croisa les bras et tourna la tête vers la vitre, comme pour signifier qu'elle ne dirait rien de plus. La glace était ouverte sur 10 centimètres et un léger vent agitait les rares cheveux de Malvina qui s'échappaient de sa barrette vernie. Les yeux de Mark se posèrent sur le sac à main de la fille. « Ok, si tu ne veux rien me dire, je vais me servir moi-même. » La main libre de Mark se glissa dans le sac.
« Touche pas à ça, Vitral !»
Malvina se déplia comme un ressort. La furie propulsa sa mâchoire sur le poignet qui tenait le Mauser, bouche ouverte, dents en avant, cherchant à lui déchirer les veines. Le bras libre de Mark se déplia, sa paume bloqua la poitrine de la fille, puis la repoussa violemment au fond du siège.
« Salaud !»
siffla Malvina, tout en s'agrippant au bras de Mark. Ses petits pieds bourraient de coups les genoux de Mark. Il hésita à cogner la fille une bonne fois pour toutes, puis renonça. Il se contenta de tendre le bras et de continuer à la tenir à distance. Malvina s'accrocha à la veste de Mark, cherchant à pincer, déchiqueter, déchirer ce qu'elle pouvait de toutes les forces qui lui restaient. Elles étaient insuffisantes face à Mark. La lutte était inégale. Ses doigts lâchèrent prise. Elle se trouva à nouveau repoussée au fond de la banquette, tête contre vitre.
Mark souffla. Malvina dissimula sous ses longs cheveux décoiffés un sourire de jubilation. Dans la lutte, une enveloppe bleue était tombée de la poche de Marc, avait glissé sous le fauteuil sans qu'il le remarque. Elle n'avait plus qu'à attendre d'être seule pour la récupérer. Ce n'était peut-être rien, un relevé de notes, une facture de téléphone, ou c'était peut-être autre chose. Marc avait ouvert son sac en peau de croco. L'enveloppe attendrait, pensa Malvina. Ce fils de pute n'allait tout de même pas oser. Fais pas ça, Vitral !
Malvina enragée, impuissante. Je chauffe ? Qu'est-ce que tu caches là-dedans, petite coquine ? La main de Marc détaillait en aveugle le contenu du sac. Des clés, un téléphone, un rouge à lèvres, un porte-monnaie, en croco lui aussi, un stylo en argent, un petit agenda. Les deux mains de Malvina se mirent à trembler, comme si elle ne les contrôlait plus. Marc brûlait. C'était la vision de cet agenda qui la rendait hystérique. Ce n'était pas exactement un agenda, d'ailleurs, plutôt un simple carnet, d'environ 7 cm sur 10. Marc avait déjà deviné le motif de l'épouvante de Malvina. Un journal intime, ou quelque chose d'approchant.
« Tu l'ouvres, Vitral. T'es mort. »«
Crache le morceau, alors. Tu sais quoi, sur Grand-Duc ?»«
T'es mort, je te jure. »«
Tant pis pour toi. » D'une main, Marc manipula le petit cahier. Les feuilles se présentaient presque toutes sous la même forme. Malvina avait illustré les pages de gauche de dessins, de photos, de collages, et avait simplement inscrit sur les pages de droite, d'une petite écriture enfantine, trois lignes. Trois courtes lignes, calligraphiées comme de brefs poèmes. Il était sans doute le premier à ouvrir ce carnet, et plus encore à le lire. Il prit soin de continuer de braquer le canon du Mauser sur Malvina. La jeune femme semblait guetter la moindre déconcentration de sa part pour lui sauter à la gorge. Il s'arrêta au hasard. Sur la page de gauche était collée la pieuse image d'un crucifix. Mais sur le corps nu du Christ, la tête couronnée d'épines avait été remplacée par celle d'un jeune type au regard de braise, sans doute une vedette quelconque de la télé que Marc ne connaissait pas. Il lut à voix basse la page de droite. « Pétrir tes courbes de mon chapelet, toucher ton corps sur sa croix, m'offrir à toi. »« Petite cachotière, grinça Marc. C'est à cela que tu penses pendant la messe, quand tu regardes le petit Jésus ?» Malvina aboya.
« T'es trop con pour comprendre. Ce sont des haïkus, des poèmes japonais, ça te dépasse. »«
Et ta grand-mère ? Elle est trop conne aussi. Je pourrais lui envoyer un SMS. » Malvina fronça les sourcils, comme une gamine prise en faute. Marc insista. « Alors ? Tu parles ou je continue ? Tu sais quoi sur Grand-Duc ? » ?»«
Je t'emmerde. »
Les doigts de Marc arrachèrent la petite page du carnet, la roulèrent en boulette, puis la lancèrent par la fenêtre entrouverte du train. « Tu as raison. Je vais être sincère. Celle-là est nulle. On essaye une autre page ? Tiens, on va jouer à un jeu. Je te pose ma question. » Si tu ne réponds pas, je lis une page. Si elle ne me plaît pas, c'est la boulette. Si elle me plaît, c'est un SMS pour Mamie Carville. Marc fit jouer les pages entre ses doigts, tout en laissant échapper un rire bruyant. Trop bruyant. Il tentait de se donner une assurance de façade, alors qu'il se sentait de plus en plus mal dans la peau d'un voleur d'intimité. Malvina se recroquevilla dans le fond de la banquette, dans la position d'un moineau sans défense. Chaque page que Marc déchirait était comme une plume d'aile arrachée. Les pages tournaient. Marc s'arrêta sur une photo d'avion, un Airbus découpé avec soin, puis planté dans l'âtre d'une cheminée. « Oiseau de fer, ange dans l'enfer, ma chair. »« Joli ça, » commenta Marc. Une boule grossissait dans sa gorge, l'empêchait de déglutir. Il ne voulait rien laisser paraître. « Sauf la dernière ligne. » « Ma chère, tu aurais dû au moins rajouter un point d'interrogation, ma petite Malvina. Allez, boulette !» Les deux feuilles disparurent par la fenêtre du train. Malvina frissonnait. Marc continua. « Alors ? Toujours rien à me dire, Malvina. Qu'est-ce que tu faisais chez Grand-Duc ?»«
Va te faire foutre. » »«
Comme tu veux. » Les pages défilèrent encore. Marc stoppa la course des feuilles sur la photographie d'une chambre de fillette, sans doute méticuleusement découpé dans un quelconque catalogue d'ameublement. Sur le côté droit de la page, Malvina avait collé une photographie de Banjo, l'énorme ours en peluche marron et jaune. Au milieu de la pièce, sur le lit, un second cliché avait été ajouté. Une photographie de Lily, bien entendu. Elle était assise en tailleur. Elle devait avoir 8 ou 9 ans. Encore une photographie volée par Grand-Duc. Marc s'efforça de lire d'une voix neutre. Sa gorge le brûlait. « Jouer, oublié. Tu m'as manqué, abandonné. »
Saloperie de vitral, dire que je t'ai montré la chambre de Lise Rose.
J'attends. Malvina tendit à Marc un majeur explicite. Boulette. Fenêtre. Marc chercha dans les pages avec plus d'attention. Il devait violer encore, plus profondément. Ses doigts s'arrêtèrent sur une page, presque la dernière. La page de droite était illustrée d'une photographie de Lily et lui. Elle était facile à dater. 10 juillet 1998. Moins de 3 mois auparavant, donc. Lily venait de recevoir les résultats du bac. Mention bien. Marc et elle s'enlaçaient devant le front de mer de Dieppe. Marc sourit pour lui-même. Ainsi, Crédule Grand-Duc ou Nazim Ozan avaient joué les paparazzi. C'était de bonne guerre. Après tout, ils étaient toujours sous contrat, payés par les Carville. Grand-Duc ne l'avait pas caché, d'ailleurs, dans son journal. Sauf que Malvina, les doigts de fée, s'était amusée au découpage. Ce n'était pas Lily qui enlaçait Marc sur le cliché collé sur l'agenda. C'était le visage de Malvina, vissé sur le corps parfait de Lily. Un montage grossier, une tête rabougrie, comme réduite par des givarots posés sur un corps de déesse. Marc lut d'une voix blanche « Couver tes amants des yeux, gémir, tenir tes amoureux, seul jeu délicieux. » Malvina ferma les yeux. Elle n'était qu'une petite souris prise au piège, sans trou où se réfugier. Marc luttait contre l'envie de lui tendre ce carnet, de se lever, de la laisser là, de s'en aller. Malvina n'était qu'une victime, broyée dans l'immense carambolage de cette catastrophe du Mont Terrible, paumée, foutue, comme lui. Un enfant qui, en se levant un matin, avait croisé un monstre dans son miroir, un enfant noyé dans une boue sordide de sentiments interdits. Marc s'entendit pourtant prononcer des mots plus mortels que les balles du Mauser qu'il continuait de braquer. « Je le garde, celui-ci, Malvina, ou bien je l'envoie à ta grand-mère ?» Malvina, le regard perdu vers l'immensité des champs de maïs du pays de Caux, se tordait les doigts, comme si elle allait finir par s'en arracher un. Marc enfonça encore un peu plus le pieu. Sa gorge n'était plus qu'un désert aride. « Ou bien, je le montrerai à Lily. Je crois que ça l'amusera beaucoup. » Les doigts de Marc commencèrent à déchirer la page. Malvina ouvrit les yeux et parla, avec une étrange lenteur.
« Crédule Grand-Duc a téléphoné à ma grand-mère, avant-hier. Il était encore bien vivant à ce moment-là. Il lui a dit qu'il avait trouvé quelque chose. La solution de toute l'affaire, paraît-il. Comme ça, à minuit moins 5, le dernier jour. Juste au moment où il allait se tirer une balle dans la tête, au-dessus de l'édition de l'Est républicain du 23 décembre 1980. Il avait besoin encore d'un jour ou deux pour rassembler des preuves. Mais il affirmait être sûr de son coup. Il avait résolu le mystère. Il avait besoin de 150 000 francs en plus aussi.
Marc referma doucement le carnet de Malvina. « Comment tu sais tout ça ?»«
J'ai écouté sur un autre téléphone. Je sais me faire oublier. Je suis même très douée pour ça. »«
Ta grand-mère l'a cru ?»«
Aucune idée. Dans le doute, elle a accepté de payer quand même. Elle s'en fout du fric, après tout. Grand-Duc l'a baladée pendant 18 ans. Un jour de plus ou de moins. »«
Et toi ?»«
Ou quoi, moi ?»«
Tu l'as cru, Grand-Duc ?» Le visage de Malvina se figea dans une expression d'incrédulité.
Parce que tu trouves ça croyable, toi. Trouver comme ça la solution, d'un coup de baguette magique, juste avant les 12 coups de minuit, tu trouves que ça tient debout ?
Marc ne répondit rien. Par la vitre, les pommerais de la vallée de la Scie succédaient aux champs de maïs. Malvina se retourna vers Marc et continua de parler à voix basse.
Je suis allée chez Grand-Duc pour le trouver, pour lui dire d'arrêter de nous faire chier. Que tout était fini, que Lise Rose avait 18 ans, qu'elle avait l'âge de décider elle-même. Toi aussi, tu as lu toute l'enquête. Moi aussi, je connais les détails. La gourmette, le piano, la bague. Y a pas photo. Tu l'as dit toi-même tout à l'heure, à la roseraie. C'est Lise Rose qui est vivante. Émilie a cramé dans l'avion il y a 18 ans. Tu pourras dire ça à ta grand-mère. C'est ce que tu penses, hein. C'est ce qu'elle pense aussi, non ?
Oui, c'est ce que Marc pensait. Malvina avait raison sur toute la ligne. Si c'est pas toi, tu sais qui a tué Grand-Duc ?
Aucune idée. Rien à foutre.
Ta grand-mère ? Pour ne pas payer ?
150 000 francs ? Trouve autre chose.
Marc encaissa avant de poser une nouvelle question. Grand-Duc a dit à ta grand-mère comment il comptait rassembler les dernières preuves ?
Ouais, il a raconté qu'il allait fouiner dans le Jura. Dans un gîte, sur le Doubs, près du Mont Terrible. C'est là que ma grand-mère devait envoyer le reste du fric.
Dans le Jura. Son fameux pèlerinage, en octobre. Pour quelle foutue raison ? Qu'est-ce qu'il allait faire là-bas ? Chercher les preuves promises à ta grand-mère ?
Il se foutait de notre gueule, c'est tout.
Marc ne répondit rien. Il se leva, rangea précieusement le Moser dans la poche de sa veste, puis tendit le petit carnet à Malvina. Sans rancune, alors.
On va te faire enculer.